Intimation. Shinzei. Nos. Geosat. Eutelsat. Exos-D. Orbcom. Fengyun. Amsat. Cybers. Météor. On les appelle des satellites zombies. Ils ont alimenté les nouvelles routes de l'information, servi de support aux systèmes de renseignement, aux états-majors, aux navires de guerre. Ils ont orienté, photographié, donné l'heure ou le temps qu'il fait. Ils ont observé le soleil, les aurores boréales et le cosmos. Ils ont relayé les chaînes de télévision à travers les continents. Ils ont fonctionné un temps, se sont cassés, ont cessé d'émettre. Et puis ils sont revenus à la vie. Ils émettent encore de petits messages radio que l'on capte à l'aide d'antennes. Des messages incohérents, de petites mélodies dans l'espace. Leur résurgence est un mystère. De quoi ces satellites fantômes sont-ils encore les messagers? De quelle mémoire sont-ils les dépositaires? De quelles anciennes croyances sont-ils les résurgences? En quoi nous influencent-ils encore? Hystérésia est une station d'écoute de ces ruines spatiales. Ce soir, en direct, nous allons tenter de capter le signal des satellites zombies qui passent au-dessus de nous en ce moment. Pour entrer en contact avec eux, révéler leur présence sonore dans le paysage, entendre leur voix et celle des fantômes qui voyagent avec eux. À la mémoire d'un homme, né dans le lointain Pacifique, parti rejoindre les étoiles. Nous allons tenter de partir à la rencontre de son âme.
Less one, establishing connection.
Thank you.
étoiles s'abat sur Terre. Des milliers de bolides multicolores illuminent la voûte céleste. Dans les rues, il y a un début de panique. On suppose que les boules de feu touchent terre pour l'embraser. L'Apocalypse mentionne la chute des étoiles. C'était la fin du monde. J'ai assisté au spectacle devant ma petite boutique de New Salem. Les météorites fusent dans l'obscurité. Je médite sur l'espace, apparemment sans fin, qui sépare les planètes de notre Soleil et notre Soleil des autres étoiles. Ils ornent les cieux au-dessus de nous dans une beauté resplendissante. Comme les météorites semblaient provenir de la constellation du Lion, on appela Léonide cette pluie d'étoiles. Le spectacle m'a marqué à tout jamais. J'ai vu plus tard la comète de Maria Mitchell, celle de Donati. Je me suis présenté à l'élection présidentielle et je suis devenu président. C'est surtout pour revivre le retour de la Terre dans les seins de poussière et de roches des Léonides, 33 ans avant de l'avoir vu pour la première fois, que j'ai fait construire un observatoire dans ma résidence à Washington. Mon assassin, le 15 mai 1865, ne m'en laissa pas l'occasion. Un siècle plus tard, le jour de mon anniversaire, en 1965, un satellite qui porte mon nom a été mis en orbite dans la haute atmosphère. Le Lincoln Experimental Satellite, LS-1. Il était chargé d'assurer les communications militaires. Et il était là-haut, le 17 novembre 1966, lorsque la pluie des Léonides se déchaîna à nouveau dans le ciel. Elle atteint près de 150 000 météorites à l'heure. Un feu d'artifice avec des éclats rouges, violets, des verts ou des bleus. Certaines étoiles sont plus éclatantes que la pleine lune et beaucoup laissent de brillantes traînées de toutes formes, visibles plusieurs minutes, à tel point que le ciel en était parfois strié. Le paysage environnant est visible par flash, illuminé par des éclairs oranges. La lumière est suffisante pour donner des ombres portées aux observateurs. Quelques jours après le passage des astéroïdes, le Lincoln Experimental Satellite ne répond plus aux commandes. Il est laissé pour mort dans le ciel lointain. À la Maison Blanche, Eleanor Roosevelt n'a jamais admis avoir vu mon fantôme. Elle a déclaré simplement avoir senti ma présence à plusieurs reprises. Et le chien Fala aboyait, sans raison, contre ce qu'il pensait être mon spectre. Le président Truman a été réveillé par des coups frappés à la porte alors qu'il passait une nuit dans ma chambre. Plusieurs témoins oculaires ont affirmé avoir vu mon ombre, réellement allongée sur le lit, voici sur le bord en train de mettre mes bottes. Le satellite qui porte mon nom est revenu à la vie le 12 décembre 2012. Une semaine avant la date supposée de l'apocalypse selon les Mayas.
Oscar 7, establishing connection. Thank you.
Depuis décembre 1981, la loi martiale impose l'arrêt des communications téléphoniques. Impossible de s'écrire, impossible de parler. Nous vivons sous un régime de terreur. Et la répression est violente. Tous nos clubs de radio amateurs ont été dépouillés de leurs équipements. Mais il y a quelques mois, Tadeusz, qui coordonnait la reconstruction de cellules secrètes de l'usine de Solidarnosc, a appris que le satellite Oscar 7 était périodiquement fonctionnel lorsque ses panneaux solaires recevaient suffisamment de lumière pour alimenter son système. Nous avons ainsi décidé d'établir un contact avec les militants de Solidarnosc dans d'autres villes et avec des amis de l'Ouest au moyen du satellite de télécommunication. Au début de l'été 1982, nous disposions d'un équipement à ondes courtes capable d'utiliser une liaison satellite telle qu'Oscar 7. Ces antennes, hautement directionnelles, sont impossibles à repérer par le régime. Ainsi, lorsque les panneaux solaires d'Oscar reçoivent suffisamment de lumière, nous l'utilisons pour maintenir un contact avec vous, où que vous soyez. Car la situation est devenue dramatique. Des manifestations ont eu lieu hier. À Lubine, les manifestants ont chanté l'hymne national polonais et scandé des insultes contre le régime communiste, contre la junte militaire, avec Jaruzelski à la tête, et contre les soviétiques. Après 30 minutes, le rassemblement de 2000 personnes a été encerclé par la milice, armée de fusils d'assaut AK-47. Les manifestants ont crié des insultes telles que « porc »,« bandit », »,« gestapo », »,« meurtrier », »,« serveur de Brejnev ». Une tentative infructueuse de construction d'une barricade a eu lieu. Mais les unités gouvernementales ont pu passer et disperser le premier groupe avec des gaz lacrymogènes. Lorsque les manifestants se sont regroupés et ont formé une deuxième vague, Zomo a ouvert le feu et sciemment assassiné deux hommes. La foule enragée a commencé des attaques continues. La milice a tiré plusieurs fois. Un autre homme a été blessé à l'arrière de la tête. Il est mort à l'hôpital. Des renforts ont été envoyés. Ils ont parcouru les rues et attaqué les passants. Immédiatement après la pacification de la protestation, les forces de sécurité ont commencé la destruction de toute preuve pour dissimuler le crime. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, les rues ont été nettoyées et tous les obus et balles ont été pris pour analyse. Le 2 septembre, les autorités ont ordonné la réparation des bâtiments endommagés. Les fenêtres brisées ont été remplacées. Les traces de balles sur les murs recouvertes de plâtre. L'enquête, malgré les déclarations cohérentes des témoins du massacre, a été close. Près de la tombe ouverte, dans le petit cimetière de la banlieue de Cracovie, une inscription proclame « Le sang a coulé pour nous ». Chacun devrait donner sa vie pour Solidarnosc. Et hier, les murs de la ville ont été tapissés d'affiches, appelant à participer aux obsèques. Elles n'indiquent que l'heure et le lieu de la cérémonie. Mais, sur beaucoup d'entre elles, des mains anonymes ont ajouté « Nous nous vengerons ».
ISIS-1, established. connection.
Imagerie multifonctionnelle. Aérosol. Végétation. Bilan radiatif. Albédo et réflectance. Champ d'humidité atmosphérique. Type de nuage. Champ de température atmosphérique. Eau liquide. Taux de précipitation. Propriétés et profils des particules de nuage. Couleur de l'océan. Biologie de l'océan. Gaz à l'état de trace, couverture de neige, bord et profondeur, vent de surface de l'océan, mesure gravitationnelle, magnétique et géodynamique, imagerie polyvalente, couverture de glace de mer, bord et épaisseur de la glace de mer. Profondeur optique des aérosols. Intensité des précipitations à la surface. Type de nuage. Eau liquide des nuages. Extinction. Rétrodiffusion des aérosols. Humidité spécifique atmosphérique. Couverture fractionnelle du feu. Température de la surface terrestre. Hauteur du sommet des nuages. Fraction molaire. Température atmosphérique, imagerie océanique et radiance spectrale de l'eau de sortie, type de glace de mer, fraction molaire, température de la surface de la mer, concentration de chlorophylle dans l'océan, couverture nuageuse, couverture fractionnée des icebergs, hauteur de la tropopause, rayon effectif des aérosols, indice différentiel de végétation normalisée, vitesse du vent à la surface de la mer. En novembre 2014, des responsables russes ont déclaré à l'agence de presse Interfax que le système de contrôle d'altitude du satellite Meteor M était tombé en panne, le rendant inopérant.
Plans ambitieux pour créer la première nation au monde dans l'espace ont été dévoilés cette semaine dans l'espoir d'inaugurer une nouvelle ère spatiale. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, mais nous espérons que la publicité qui accueille maintenant attirera des chercheurs talentueux prêts à travailler pour la réalisation d'Asgardia. Je m'appelle Igor Ashurbeli. J'ai été président NPO Almaz, une société militaire russe qui développe et commercialise une série de missiles moyenne et longue portée. Je suis à présent chef de l'Aerospace International Research Center à Vienne et président d'Asgardia, un micro-État dédié à l'exploration scientifique et libre de restrictions géopolitiques. Je dirige l'initiative en étroite collaboration avec un groupe d'ingénieurs, entrepreneurs et experts juridiques. Asgard est le domaine du dieu Odin, situé au centre du monde. Asgardia est le nom que nous avons choisi pour fonder notre royaume spatial. Le gouvernement est doté de 12 ministres et d'un parlement. Notre nation fonctionne comme un pays souverain où les citoyens pourront par la suite vivre, travailler et suivre leurs propres règles et règlements si tout se passe comme prévu. J'espère parvenir à faire connaître Asgardia par les Nations Unies. Mais il m'est impossible à ce stade de ne donner aucune assurance de ce que nous y arriverons un jour. En plus de l'adhésion à l'ONU, notre but ultime serait de construire un bouclier de haute technologie dans l'espace qui protégera les êtres humains sur la Terre des menaces cosmiques, artificielles et naturelles, comme par exemple celle des débris spatiaux, des éjections de masse coronale et des collisions d'astéroïdes. Le 13 juin 2017, moi, Jeffrey Member, avons annoncé le lancement du premier satellite Asgardia 1, première étape de la colonisation de l'espace. Sa mission est secrète. J'ai ensuite déposé un projet de constitution qui a été adopté le 9 septembre 2017. Et le 25 juin 2018 à Vienne, lors d'une cérémonie à grand spectacle, j'ai été nommé officiellement chef d'État d'Asgardia. J'en suis surtout le père fondateur. En 2021, Asgardia comptait plus d'un million de citoyens et 1829 résidents. À terme, ces citoyens pourraient se rendre à la nation de l'espace. Car nous voulons actualiser le rêve éternel de l'homme en quittant notre berceau sur la Terre et en nous étendant à travers tout l'univers. Il ne vous reste plus qu'à demander vos papiers pour être citoyen d'Asgardia. Thank you.